jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est un grand écrivain de science-fiction. La Horde du Contrevent, Les Furtifs, c'est lui. Grand écrivain de science-fiction donc, ou devrais-je plutôt dire mytho-poète pour le citer. De ceux qui veulent créer les mythes contemporains, de ceux qui veulent réinvestir le champ de l'imaginaire comme on envahit un champ de bataille. Ce champ qu'on abandonne trop facilement soit aux fictions des grandes firmes technologiques, soit à nos technophobies. Entre les deux, il y a pourtant autre chose. De la place pour imaginer un art de vivre avec ces technologies. C'est ce qu'il tente d'explorer dans Vallée du Silicium, cette chronique et une nouvelle. Alors, à quoi ressemble cet art de vivre technopoétique ?
Bonjour Alain Damasio. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture.
C'est un grand plaisir de vous recevoir, Alain Damasio. Alors, ces chroniques, cette nouvelle, partent d'un voyage que vous avez fait au printemps 2022 à San Francisco, au cœur de la Silicon Valley. Pourquoi êtes-vous parti là-bas ? Est-ce que vous aviez besoin de vérifier de vos propres yeux ce qui s'y passait et s'il y avait peut-être l'existence d'un complot sur place ?
Ouais, au départ, ça me fait toujours penser à Deleuze quand il dit « on voyage pour vérifier, pour aller vérifier quelque chose ». Moi, j'allais pas vérifier, j'allais essayer de trouver effectivement une sorte de vision de ce qui allait arriver. Voilà, j'allais voir le monde qui vient, et je sais qu'il est fabriqué en grande partie là-bas, parce que effectivement tous les outils qu'on utilise au quotidien, en commençant par nos fameux smartphones, toutes les applis, toutes les plateformes, elles sont créées là-bas à la Silicon Valley. Eux, ils se vivent comme le centre du monde, c'est ça qui est fou. Ils se définissent comme le centre du monde, et moi, je trouve qu'ils ont finalement raison, puisque tout ce qu'on fait dans la journée, finalement, passe par...
Par eux, finalement.
On est sur les outils qu'ils ont fabriqués. Et sur les pratiques et les usages et les types d'usages que ces outils permettent. Donc, je voulais aller voir là-bas si quelque chose que j'avais pas vu existait. Et effectivement, il y a eu vraiment des surprises. Et je voulais rencontrer des gens qui travaillent là-bas, qui travaillent sur place et qui pouvaient parler librement. Donc, j'ai rencontré des gens, des cadres supérieurs, notamment de la Silicon Valley, des gens qui travaillent avec Zuckerberg et dans des conditions assez cool, puisque c'était dans des villas, j'allais chez eux, j'allais dans les restaurants, donc à des endroits où ils pouvaient effectivement s'exprimer, alors que tu peux pas rentrer comme ça dans Apple ou dans Meta, tout est complètement presque militarisé, donc j'étais content d'avoir ces accès un peu fluides. Quoi.
Mais qu'est-ce qu'on peut voir, Alain Damasio, sur place, si le monde dont il rêve et qu'il nous propose est immatériel, on va y revenir, c'est une de vos grandes observations là-bas, et surtout s'il s'agit d'un monde qui vient. Un monde qui vient n'est pas encore advenu. Donc qu'est-ce qu'on peut pressentir?
Ouais, c'est ça. Vous avez qui est bien. Moi j'aime bien, c'était le PDG de Liquid. Le PDG de Liquid, il disait ça, il disait la Silicon Valley, c'est pas un lieu, c'est un état d'esprit. Et c'est ça que tu sens. Donc tu vas trouver un état d'esprit.
Et mais pourquoi on peut pas le sentir avec notre smartphone là, par exemple?
Non, parce que t'as la présence des corps et t'as la présence des énergies et tu vois des gens qui sont dans ce bonheur de construire la tech de demain, parce que eux ils s'éclatent à faire ça. On est avec des start-upers, on est avec des gens qui bénéficient de millions de dollars pour développer leur technologie, et t'as cette espèce de bruissement, de pétillement de l'énergie de la Silicon Valley, voilà, où bien qu'il y ait 98% d'échecs, ça on le dit pas, la plupart des startups s'effondrent, les 2% deviennent des succès effectivement mondiaux. Donc tu ressens cette énergie, tu ressens ce plaisir, tu ressens ce bonheur. C'est des gens qui gagnent très bien leur vie aussi, donc ils sont dans des conditions très favorable, mais j'aimais bien cette idée de me laisser embarquer dans cet enthousiasme-là, qui est complètement différent de la perception européenne ou française, où on a toujours un peu ce côté humanisme de surplomb et un côté un peu narquois. Du coup, j'étais content de me laisser embarquer, ouais.
Vous commencez votre première nouvelle, Alain Damasio, par la visite de l'Apple Park, son Apple Store, célèbre Apple Store. Le décor est planté. Là, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Parce que tout est lisse, tout est excentré.
Ouais, c'est vide. Ce qui était fou, c'est que j'ai eu la chance de le faire avec Fred Turner. C'est un sociologue vraiment de la Silicon Valley. Comme il dit, c'est le sociologue de la tribu, puisque lui, il habite sur place.
Et comment on peut être sociologue là-bas, sachant qu'en fait on est à la fois juge et partie, fait, c'est un peu bizarre.
Mais il assume d'être un observateur engagé et d'habiter sur les lieux mêmes. Et il a commencé justement par montrer toutes les choses qu'on voit pas de la Silicon Valley, en particulier que c'est des terrains qui ont été totalement pollué par le nettoyage des circuits imprimés de silicium. Et t'as des collines entières qui sont cachées sous des mottes de terre et d'herbe et qui sont des terrains complètement pollués. Il m'a montré les maisons qui sont surélevées généralement 2 ou 3 mètres parce que les sols sont complètement pollués. C'est des choses qu'on sait absolument pas. Mmh. Et pareil, il a commencé à me montrer les allées où il y avait les camping-cars, où habitent des salariés de la Silicon Valley, mais dûment salariés tous les mois. Sauf que c'est les Silicon Valley, en fait, c'est-à-dire c'est ceux qui font qui sont vigiles, qui sont concierges, etc., et qui gagnent absolument pas assez d'argent pour avoir un logement, vu les prix délirants des logements sur place. Puisque faut savoir qu'un salarié moyen, c'est 15 000 dollars par mois, quand même. Donc, eux, ils sont obligés de vivre dans leur camping-car pour continuer à travailler sur le... Donc, t'as des écarts de richesse colossaux, ça, on va pas te parler de ça, on va pas te le montrer. Donc, tu rentres quand même par une dimension un peu sociologique. Et après, tu vois les sièges sociaux pharaoniques, inaccessibles, participants du mythe. T'as finalement, effectivement, cet Apple Store qui est le premier et central Apple Store. Donc, t'as l'impression d'être dans la Mecque du Mac, avec ce côté, ce design complètement fou, avec toujours ce rectangle avec les bords arrondis qui est la marque de...
C'est lisse.
C'est lisse. Il n'y a pas de texture. Il n'y a pas de... Tu sens que... Il faut une sorte de pureté un peu puritaine, un peu, je sais pas, un peu protestante peut-être. Mmh. Et ça m'a touché. C'est-à-dire de voir, de rentrer dans l'Apple Store où tout est absolument vitré, de sentir que par l'architecture, le design, on te transmet quelque chose, quoi. On te transmet une vision qui n'accroche pas, qui est lisse, qui est pas rugueuse de ce que doit être le monde de demain. Donc t'es touché par ça. Et en même temps, tu te dis, c'est qu'un Apple Store. Tu cherches une espèce de centre névralgique, tu cherches un lieu de culte, quoi, pour cette espèce de religion des pratiques quotidiennes qu'on a autour de ces outils. Et il n'existe pas. Ça reste effectivement un état d'esprit. Donc,
On va écouter tout de suite justement un petit peu l'état d'esprit d'Apple. C'est la dernière publicité, enfin c'est l'introduction, la présentation de leur Apple Vision Pro.
Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. When you put on Apple Vision Pro, you see your world and everything in it. Your favorite apps live right in front of you, but now they're in your space. You navigate with your eyes. Simply tap to select, flick to scroll, and use your voice to dictate. It's like magic. Foundational to Apple Vision Pro is that you're not isolated from other people. When someone else is in the room, you can see them and they can see you.
Voilà pour l'Apple Vision Pro présenté, je cite, comme un ordinateur spatial révolutionnaire. Révolutionnaire, hein, c'est Apple qui le dit lui-même, c'est une révolution qui intègre de façon fluide les contenus numériques au monde réel. Et de là, Alain Damasio, vous distinguez, on peut dire, deux réalités. Il y a la réalité, par exemple, du geek asocial comme Mark Zuckerberg qui va proposer des métaverses, donc des mondes à côté les uns des autres. Et puis, il y a Apple qui, lui, en fait, ne propose pas un autre monde, mais notre monde, notre réalité mixte, augmentée. C'est-à-dire que, pour bien le dire aux auditeurs et auditrices qui ne sont pas anglophones, il faut mettre les lunettes. Et en fait, je vois le studio tel qu'il est maintenant avec vous face à moi, Alain Damasio, sauf qu'en fait, se superpose sur vous mes applications et je peux cliquer sur mes applications en même temps que je vous parle.
Mais ce qui est génial, c'est de voir qu'il y a des cultures aussi d'entreprise à la Silicon Valley, ça j'ai découvert. C'est-à-dire que Meta et Zuckerberg sont encore à l'adolescence pour moi. C'est-à-dire que c'est une vision de geek, c'est une vision de quelqu'un qui va s'isoler dans sa chambre avec un casque fermé pour rentrer dans des métavers, et moi, c'est ce qu'on me racontait là-bas. C'est-à-dire que leur délire, c'est d'aller dans une salle de concert, de vivre un concert dans le métavers avec d'autres personnes, avec le casque qui spatialise le son en binaural. Tu n'as évidemment ni l'odeur, ni les coups d'épaule, ni la vibration des basses en toi, mais tu as l'impression quand même de participer au concert. Et puis, tu as Apple qui a une maturité, je trouve, industrielle beaucoup plus importante et qui dit... Cette fermeture-là, cette coupure-là, elle est pas opérante. Ce qu'il faut, c'est une réalité mixte. C'est une réalité qui va être augmentée, mais dans lequel t'as à la fois l'avantage de l'ordinateur et des applis et le fait d'être inscrit dans un espace. Et ça, ce qui m'a frappé, moi, sur cet Apple Vision Pro, et je trouve qu'ils ont raison de dire que c'est révolutionnaire pour le coup, parce qu'il y a plein de techno.
Ouais, j'étais ironique, j'aurais pas dû.
Non, mais parce que ils t'inscrivent dans un espace. Et ça, jusqu'ici, bah, quand tu regardes ton smartphone, voilà, moi je dis, c'est une vie passée à caresser une vie, tu es sur un écran de 5 cm par 10, et tu bouges pas de ça, d'accord? Là, tu es à l'intérieur. Mmh. Voilà, tu es à l'intérieur d'une réalité qui a été augmentée et qui est vraiment mixte. C'est-à-dire que c'est la réalité que tu vois, que tu sens, tu es sur ton sofa, les gens te voient et tu les vois. Mais ton monde, il a agrandi la taille d'une pièce, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est comme si l'espace habitable avait été réaménagé. Et moi, j'adore cette idée quand tu lis Sloterdijk et il te dit l'aménagement de l'espace, c'est la première des technologies humaines. On aménage d'abord l'espace parce que on est une espèce en néoténie, donc les bébés ont besoin d'être protégés. Et on a d'abord aménagé l'habitat et l'espace pour protéger l'espèce. Et quand tu suis cette ligne d'aménagement de l'espace, t'arrives à la fin à la domotique, c'est-à-dire que tu aménages effectivement ton intérieur, tu gères tes volets, ton énergie, ton chauffage, etc. par l'informatique. Mais tu vas encore plus loin et t'as l'Apple Vision Pro où c'est le dernier espace aménagé, mais c'est le tien. Tu vois, il commence en disant « your world », quoi. C'est ton monde à toi.
Ah oui, mais
on te donne la possibilité d'habiter dedans.
Voilà, mais même si là, pour le coup, parce que vous faites plusieurs constats qui pourraient friser la technophobie, mais on va y revenir, Alain Damasio, parce que vous refusez de tomber là-dedans dans une peur de vieux con face aux
oui,
technologies.
Oui, parce que je suis pas du tout technophobe. Moi, j'ai une sorte de fascination-répulsion comme beaucoup de gens. Moi, j'utilise ces technologies, elles m'éclatent, elles me permettent de créer.
Vous êtes un fan d'Apple aussi.
Ouais, je suis partie des fidèles. On m'a appris l'informatique à travers Apple, donc j'ai continué comme beaucoup de gens et je fais partie de ce monde. Donc
oui, mais quand même, vous ne pouvez pas vous empêcher, dans les premières nouvelles du moins, de tracer, de faire un constat de tout ce que ça brise anthropologiquement, le rapport au corps, le rapport à l'espace, justement, même avec un Apple Vision Pro, comme vous l'avez souligné, c'est notre monde. C'est ce que vous appelez un techno cocon, c'est pas le monde qu'on partage en commun. Il y a une perte de commun, il y a une perte de matérialité. Et ça, comment faire le constat sans être justement un vieux con, un technophobe?
Non, on peut parfaitement le faire et dire que ces technologies-là naissent aux États-Unis, c'est pas neutre du tout. C'est des technologies qui deviennent universelles. Moi, je dis même numiverselles, puisque t'as un Kazakh, une Ouzbek, un Balinais, etc., va utiliser les mêmes technologies, les mêmes plateformes, les mêmes applis, va faire les mêmes gestes sur son smartphone. Donc, il y a quelque chose dans les pratiques qui est vraiment universel. Mais ça vient de gens qui, à 80%, sont des mâles, ça, il faut le dire. À 90% sont des Asiates ou des Européens, c'est-à-dire, voilà, des Blancs. Et t'as très peu de Latinos ou de Blacks qui travaillent dans ces industries-là. Et ils ont une vision du monde qui est liée à une certaine, moi je trouve, une certaine associabilité, ou en tout cas un hyper-individualisme très marqué, et qui considère être l'économie de désir de tout le monde. Donc ils nous transmettent, par exemple sur le métavers, c'était très 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 net, c'était pendant le Covid, on était dans la distanciation sociale maximum, et là Zuckerberg se dit, c'est le moment, on va pousser ça à fond. Et maintenant, on va jouer au bowling avec des boules virtuelles en réalité augmentée dans le métavers. On va aller en concert dans le métavers, etc. Donc, il se dit, on peut étendre la logique du Covid, qui est une logique pour moi atroce de distanciation sociale, à la vie quotidienne.
À un mode de vie, en fait.
Mais ça, c'est leur vision. C'est leur vision de geek, c'est leur vision de nerd, c'est leur vision et leur désir à eux. Mais ils les transmettent, ils nous les portent. Donc, à nous, ensuite, de résister ou d'appliquer ces choses-là. Donc, c'est clair qu'il y a un technococon, c'est clair que c'est fondé sur l'individu, l'isolement de l'individu et la communication à partir du technococon vers le monde. C'est pas constitué autour du lien collectif et du lien incarné. Il y a un oubli du corps qui est fascinant, voilà.
Ah oui, il faut revenir d'ailleurs.
Ah ouais, mais l'oubli du corps, il est fou. Et quand il réfléchit, tu vois, j'ai pas mal discuté avec le sociologue Fred Turner, et il me disait, on a un héritage puritain, parce que, évidemment, c'est les puritains qui voyagent, qui prennent le Mayflower et qui arrivent aux États-Unis, qui colonisent les États-Unis. Et il y a ce truc-là, il me disait, il y a un rapport à la lumière qui est très particulier. C'est plus t'es proche de la lumière, et c'est intéressant avec les fibres optiques, le laser, enfin c'est une technologie de la lumière en réalité, l'informatique. Et il dit, il y a des gens qui sont plus ou moins proches de la lumière. Il disait, les premiers, les plus proches, c'est les hommes blancs, justement. Derrière, il y a les femmes, parce que quand même, elles enfantent, et il y a un côté un peu corporel, un peu physique, un peu ancré mammifère. Donc, elles sont un peu plus éloignées de la lumière. Et puis après, évidemment, t'as les noirs, Et cette logique de dire, plus t'es pur, plus t'es dans l'élément de la lumière, plus t'es dans l'immatérialité, plus t'es au centre, finalement, de ce monde-là, il dit, c'est latent. Et ça, je l'avais pas vu, pas compris avant d'aller là-bas. C'est latent dans l'approche. Et il dit, donc, il y a un racisme et il y a un sexisme un peu, un peu sous-jacent à tout ça aussi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de l'avoir en... Donc c'est pas, bien sûr, c'est pas neutre du tout. Voilà. Et nous, on est amené vers la lumière aussi.
Et alors sur le corps, justement, on peut y revenir, Alain Damasio, parce que c'est vraiment intéressant. On pourrait se dire qu'avant, on faisait les choses par nous-mêmes et que maintenant, le corps a été délaissé. Vous en faites aussi le constat que tout est centré autour de notre cerveau. Nous sommes assis et par paresse, par confort, par flemme ou que sais-je, par facilité, on ne se bouge plus. Mais en fait, vous dites, c'est beaucoup plus compliqué que ce simple constat. On n'a pas que deux corps. On en a quatre, c'est le problème à quatre corps, c'est même plus le problème à trois corps comme le grand roman de SF, en plus qui vient d'être adapté sur Netflix, donc on voit très bien de quoi on parle. Il y a vraiment le corps qu'on a oublié, le corps qu'on a hygiénisé, qu'on a entretenu au cours des 19e siècle et 20e siècle, il y a le corps reconnecté, on essaye de quantifier toutes nos données, et puis il y a ce quatrième corps, alors c'est le corps fondamental, mais ça, comment on le retrouve celui-là?
Ouais,
c'est celui du désir, justement.
Moi c'est marrant, cette chronique, c'est celle qui m'a exigé vraiment le plus de réflexion, parce que j'étais extrêmement bousculé par la rencontre de ce jeune Français de 30 ans, Arnaud Auger, qui est extraordinaire, parce qu'il a les lunettes connectées, il a les bracelets, il a les montres connectées, il a des cachets pour sa flore intestinale qui a été analysée, donc il est complètement dans ce corps monitoré, dans ce corps calculé, dans ce quantify self, comme ils disent. Et en même temps, c'était quelqu'un de très fluide, très chaleureux, très convivial. Et c'était pas du tout le geek anxiogène auquel j'aurais pu m'attendre. Et ça m'a super intéressé parce que lui, le vivait très bien. Et je me suis dit, j'ai senti ce clivage des corps. J'étais très perturbé par cette rencontre parce que moi, je vis dans le premier corps, en fait, le corps vécu, le corps qui a chaud, qui a froid, qui est fatigué, qui a faim, etc. Et puis, tu sentais que lui, il avait ce corps monitoré, ce corps calculé, ce corps où tu connais ton pouls à chaque instant, ta tension, ta fièvre. Il a su son Covid deux jours avant parce qu'il avait ses courbes de fièvre. Il se lève le matin, il monte sa montre, il a 89% de qualité de sommeil parce que il calcule le sommeil paradoxal, le sommeil long, le sommeil léger, les temps de réveil. Et il suit ces courbes-là. Il a même la courbe, il va au cabinet de médical et ça, c'est génial. En fait, le médecin a toutes ses données. C'est même pas un médecin, c'est un data analyst, quoi.
Il n'y a pas besoin d'y aller.
Et en fait, il n'y a pas besoin d'y aller. Et en fait, donc, j'étais parti en disant, putain, c'est marrant, ce deuxième corps qui double le premier, comme une espèce de, je dis, une sorte de burqa numérique ou une espèce de drap posé sur nous et je me disais, mais pourquoi? Et en fait, je suis arrivé à cette idée de décor. Bon, je fais beaucoup de jeux de mots sur les corps, parce que décor, je le mets C-O-R-P-S, mais c'est-à-dire ce corps désinvesti, hygiénisé, assis sur des sofas, assis sur des canapés, qui bouge très peu, ou quand il bouge, c'est pour faire du sport très régulé. Et c'est le corps désaffecté, en fait, désinvesti. Et je pense qu'on est sur ce type de corps beaucoup en société occidentale aujourd'hui. Et lui, il me disait, comme je sens plus mon corps, je le comprends plus, ou je suis... Il utilise le raccord, toujours CORPS, c'est-à-dire le raccord technologique, les données, pour se réapproprier ce corps qui lui échappe parce qu'il est un peu désinvesti. Mais il y a ce quatrième corps pour moi, qui est le corps peut-être le plus important.
L'encore, E-N-C-O-R-P-S.
Ouais, l'encore, et l'accord aussi, c'est-à-dire ce corps qui, c'est ce corps qui nous rend amoureux, ce corps qu'on n'arrive pas à maîtriser, ce corps qui nous fait faire des actes manqués, ce corps...
Mais le corps du désir, en fait.
Le corps du désir, qui c'est d'inconscient corporel, et qui fait l'objet de très vieilles technologies, puisque c'est le shiatsu, c'est le yoga, il y a beaucoup de technologies à travers le monde, et même dans les peuples premiers, etc., qui investissaient, qui essayaient de créer cet accord entre ce corps premier et ce corps plus inconscient. Mais nous, on est des tribus technonomades, donc la façon dont on se réapproprie ce quatrième corps, c'est par l'informatique, c'est par le... Et ça vient, maintenant, il y a de plus en plus de bracelets, c'est beaucoup plus utilisé au quotidien. Les bijoux connectés deviennent des outils d'autosurveillance physique, sans parler séquençage de génome, sans parler de la flore intestinale que tu analyses avec un capteur.
Mais alors, comment on fait pour retrouver cet encore ? Ce corps fondamental, en fait, il n'a pas disparu. Il est juste recouvert.
Ouais, il est
mais
juste
il est
recouvert
formaté quand
ouais,
même.
Ouais.
Parce que les désirs, si à partir du moment où on vit dans le monde de désirs de Mark Zuckerberg ou Elon Musk ou Apple, est-ce que c'est vraiment nos désirs qui ont changé de nature ou est-ce qu'en fait ils sont juste cachés et il s'agit de les retrouver?
Non, pour moi, je le dis à un moment donné, je dis, il a dit au corps, c'est un au revoir. Ce corps-là, il insiste dans l'art énormément parce que. Tu le vois sur le spectacle vivant, tu le vois au cinéma, tu le vois en littérature.
Oui, on parle d'incarnation beaucoup.
Il y a un réinvestissement très fort sur le corps d'incarnation. Il y a pas un comédien qui te parle pas d'incarnation. Il y a pas un réalisateur qui revient à la physicalité des choses ou à la sensualité. Parce qu'on sent que quelque chose est en train de disparaître, quoi. Voilà. C'est de Baudrillard qui disait ça. Il dit, on parle jamais autant d'une chose qu'au moment où elle disparaît. Et il y a une espèce de disparition. Mais malgré tout, on est des mammifères. On est le produit d'une évolution très forte. On est des êtres vivants. Donc c'est là. C'est là, et pour moi, ben, on le retrouve en, justement, en essayant de renouer avec le vivant, c'est-à-dire de renouer avec des forces animales, végétales, de faire, moi, ce que je fais dans ma montagne, là, puisque
vous faites de la randonnée.
Voilà, et puis on a créé cette zone d'expérimentation, là, qu'on a fait, dans les Alpes d'Haute-Provence, sur lequel, eh ben, on est constamment, au maximum dehors, en tout cas. On va se baigner en rivière, on va ramasser les champignons, on va découvrir les vautours fauves, on va découvrir les chamois. On essaye de recréer, de retisser ce lien, qui a été perdu par la modernité, parce qu'on est des urbains, et en recréant ce lien-là, tout d'un coup, bah, le corps, il reprend sa puissance, il reprend sa vitalité, et je trouve que ça dégage une énergie et un bonheur qu'on a tendance à perdre. Ouais, ouais.
Vous avez parlé de Baudrillard, Alain Damasio, vous le citez régulièrement dans Vallée du Silicium, vous auriez pu le citer toutes les pages, vous nous dites, et des citations entières, et ben, vous savez quoi, on va en écouter une minute.
Ah, génial.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Tout ce qui s'était pensé ici, tout ce qui s'était rêvé ici ou fantasmé en Europe pendant un siècle ou deux au moins, a trouvé une espèce de matérialisation comme celle-là, brutale, pas forcément heureuse, ce n'est pas une question de heureuse ou malheureuse, hein. L'utopie dans ce sens-là, elle peut être infernale, mais c'est une utopie réalisée. Qui est une situation paradoxale, puisque l'utopie n'est pas faite pour être réalisée. Hein. Tous nos rêves, nous, ils sont faits pour être rêvés et pas tellement pour être mis en pratique. Et là, on se trouve dans un monde qui a franchi ce saut, qui est passé ce cap et qui, en quelque sorte, réalise tout, qui ne laisse rien à l'état de rêve, d'idées, de concepts, etc., mais qui le technologise, qui le réalise, qui le matérialise. Et ça donne une situation, bah, je dois dire, assez originale. Pour nous, souvent... presque invivable. Enfin, je ne sais pas si je pourrais vivre en Amérique. Ça, c'est une autre façon de... Mais ça a quelque chose de... C'est pour ça que c'était un petit peu la fin du monde aussi. La fin de notre monde, qui est un monde quand même beaucoup plus imaginaire. Or, là-bas, il n'y a pas d'imaginaire, c'est de la fiction pure. Hein, les choses y sont réelles, mais en même temps, elles sont toujours fictionnelles par le fait qu'elles sont toujours à l'état d'hyper-réalité.
Je ne sais pas si je pourrais vivre aux Amériques, le philosophe Jean Baudrillard qui s'interroge le 5 mars 1986 dans l'émission du jour au lendemain sur France Culture.
1986, c'est aussi l'année de parution de son essai Amérique. Est-ce que ça vous a fait plaisir d'entendre sa voix?
Ouais, ça fait hyper plaisir de l'entendre. Je trouve que ça fait partie des philosophes qui sont un peu oubliés en ce moment. Il y a des modes aussi dans le domaine des idées. Je trouve que Baudrillard, il est incroyablement éclairant pour comprendre ce qui se passe.
Est-ce qu'il n'est pas un peu daté quand même?
Eh ben, moi, j'ai pas trouvé en le relisant. C'est marrant, Amérique, ce tout petit bouquin qui fait 120 pages, que je conseille vraiment à tout le monde de lire, parce qu'il est très court, très dense. Je l'avais lu en 92. Moi, j'étais parti aux États-Unis, j'avais fait 1500 km à vélo, comme ça, dans les grands parcs américains. Et c'était mon livre de chevet. Et je repars aux États-Unis, et je repars avec ce petit bouquin qui était déjà raturé, de ma jeunesse. Et j'ai été sidéré. D'être à nouveau complètement happé, d'abord stylistiquement, parce que c'est aussi un grand styliste, Baudrillard, et surtout avec des intuitions, notamment sur le genre, sur ce qu'il appelle la formule individuelle du genre, et sur cette espèce de, ce qu'il appelle lui le stade vidéo, c'est-à-dire cette espèce de boucle, de circuit court par lequel tu essayes de renforcer l'intensité des moments, tu vois. Quand on dit, voilà, moi je le dis dans le bouquin, maintenant il n'y a plus de fête sans quelqu'un qui filme la fête et sans les images de la fête.
Dans un redoublement en fait de l'image.
Voilà, il y a un redoublement par la mémoire et l'archive de ce qu'on est en train de vivre. Et plus ce que tu vis est modeste, plus tu as tendance à l'investir avec la vidéo, avec l'image, avec le son, comme si tu avais besoin d'ancrer ou de densifier ou d'intensifier des moments qui sont finalement relativement légers. Et lui, il en parle dès le début en disant, mais c'est pas du narcissisme. Quand les gens, ils prennent un selfie, c'est pas du narcissisme. C'est une façon d'ancrer son identité, de la territorialiser, de la faire exister. Parce que tout est évanescent, tout est dématérialisé, tout est flottant, pulvérulent. Et en fait, en l'ancrant, on arrive à se dire, bah, j'existe en fait, j'ai une identité. Et cette intuition-là, par exemple, je la trouve géniale, je la trouve parfaitement opérante sur ce qui se passe aujourd'hui. Et je me dis, mais voilà, j'aurais pas eu cette idée. C'est ça qui est génial en philosophie. C'est tout d'un coup, quelqu'un trouve un concept transversal qui te permet de comprendre tout un ensemble de phénomènes que tu... Moi, je l'assimilais en disant, oui, les gens sont sous une sorte de némose, ils ont une sorte de psychose mémorielle, etc. Non, c'est pas ça. C'est que t'es tellement dans une société liquide, individualisée, t'as tellement difficile d'être ancré ou lié. Avant, on était lié dans des communautés, des mondes où qui nous assignait un peu une place. Aujourd'hui, on est tous comme ça, pulvérulents. On est tous dans nos monas, dans nos technococons. On est des individus, on n'est même pas des individus, parce qu'on a des fragments sur Instagram, des fragments sur Facebook, on a des fragments sur TikTok, on a des fragments partout. Et du coup, en réinscrivant cette boucle, quoi, cette boucle de ce qu'il appelle lui le stade vidéo, mais on pourrait dire c'est le stade du réseau, on arrive à se donner un peu de densité. Et je trouve que ça explique beaucoup de choses. Ouais, ouais.
Et c'est aussi ce qu'il appelle des... D'où le terme de fiction. C'est-à-dire qu'il y a des images qui redoublent du faux, mais hyper réaliste. C'est-à-dire qui nous réancre tout le temps dans le réel. Et il le dit dans l'archive qu'on vient d'entendre, c'est de la fiction, mais c'est pas de l'imaginaire. Vous, vous êtes écrivain Alain Damasio, vous passez votre temps à citer Baudrillard, mais on pourrait aussi parler de Deleuze, de Nietzsche, de Foucault. Mais vous, vous êtes un écrivain dont ces chroniques apparaissent aussi en fait des moments de fiction. Je me suis fait prendre au piège, j'ai cru que c'était vrai, en fait c'était une fiction, et à la fin il y a une nouvelle inédite. Ça veut dire quoi réinvestir l'imaginaire alors, si c'est pas sous l'ordre de la fiction?
Réinvestir l'imaginaire, c'est moi j'aime bien le dire comme ça, c'est-à-dire que nous, notre travail, c'est d'offrir du possible au réel. C'est-à-dire qu'on est dans un monde réel. Ce monde, il est très contingent. Il a, voilà, c'est tout un milliard d'incidents qui arrivaient au monde dans lequel on vit et qui nous est présenté comme naturel, évident, obligé, etc. Tout le monde te dit le capitalisme, il n'y a pas d'horizon pour le dépasser. On est, comme on dit, c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme parce que, voilà, on est dans ce monde-là. Et nous, on arrive et on dit, le monde pourrait être tout à fait autre. Voilà. Il pourrait fonctionner d'une façon tout à fait différente. Il pourrait se passer bien d'autres choses. Il pourrait. Donc, l'imaginaire, c'est ça. C'est tout d'un coup mettre en place la possibilité, de ces alternatives. Donc, politiquement, c'est extraordinairement important parce que c'est à partir de là que la transformation du monde devient possible. Si tu restes dans le réalisme, si tu restes dans l'idée que, bah, le monde est peut-être extrêmement grave, mais il n'y en a pas d'autre possible. Tu peux pas imaginer autre chose. Donc nous, on est là pour offrir ce possible au réel et le mettre en place.
Mais il y a aussi beaucoup d'écrivains, et notamment dans la SF, qui imaginent des dystopies.
Ouais, tout à fait.
Donc les réels qui nous, les possibles qui nous sont présentés, sont aussi des possibles qui ne donnent pas envie d'agir, d'être dans la puissance.
Bien sûr,
justement.
Tout est absolument possible, mais la dystopie, généralement, quand elle est mise en place, c'est pour jouer un rôle d'alerte, pour faire peur. Ou pour complètement, presque des fois, terroriser même mentalement les gens et dire c'est vers ça que vous voulez aller vraiment?
Oui, ce que vous faites aussi un peu.
Ouais, mais c'est fascinant. Et puis il y a côté cathartique, faut le dire, c'est-à-dire que ça purge des passions d'anxiété, ça purge des passions de violence, ça purge des passions sexuelles. On est dans la catharsis, dans les dystopies SF, on fait de la catharsis, faut dire les choses. Moi je l'ai fait beaucoup aussi à un moment donné, j'ai fait beaucoup ce rôle d'alerte. Maintenant je suis moins là-dedans. Je trouve que c'est tellement évident de faire de l'effondrisme ou que j'ai envie de proposer autre chose. Voilà, j'ai envie de proposer des alternatives, j'ai envie de montrer que voilà, d'autres mondes sont vraiment possibles et de les mettre en place en dehors de cette espèce de logique cyberpunk dans lequel on est encore inscrit.
Vous parlez d'ailleurs de biopunk, c'est exactement à l'image de votre dernière nouvelle, enfin de cette nouvelle qui clôt l'ouvrage qui est inédite, où là en fait, vous mettez aussi en place ce que vous regrettez, vous le dites, le cœur de ma technocritique, deux points, la tech ontologiquement conjure l'altérité. Or, dans cette dernière nouvelle, vous imaginez un monde, alors là, à la fois dans l'individualisation extrême et en même temps dans l'hybridation totale, puisque les êtres, on le comprend au fur et à mesure, qui sont les héros de cette nouvelle, ne sont pas des humains.
Ouais, mais je pense que c'est emblématique de mon mouvement imaginaire aussi, c'est-à-dire que j'adore poser une base dystopique, là elle est très forte, hein, c'est vraiment la domotique, c'est une IA domotique qui gère la maison et qui fait tomber des portes absolument infranchissables et qui sépare les trois personnes du logement, quoi, puisque le père, la mère et l'enfant sont séparés dans l'appartement par cette IA domotique parce qu'il y a un blackout. Et le blackout déclenche une réaction de l'IA qui est programmée pour isoler en cas d'attaque. Et donc, chacun se retrouve bloqué dans son huis clos, en prison chez lui-même, tu vois. Donc t'es sur une base dystopique assez terrifiante et absurde en plus, puisque l'IA est programmée pour pas lever le, effectivement, la.
Les parois qui permettraient de se sauver.
Et en même temps, moi, je voulais le coupler avec cette idée que, c'est un fabricant de robots hybrides, c'est-à-dire c'est des robots qui sont à moitié organiques, à moitié en silice, on va dire. Et que, finalement, ça ouvre à une autre forme de vie, de vitalité, de possibilité. J'aime bien marier ces choses-là. Voilà, de montrer que des personnages qui sont pourtant robotisés, qui sont à moitié robotisés, tout d'un coup s'ouvrent vers le vivant et se couplent avec le vivant. Et il y a cette idée, voilà, dans la nouvelle de dos intelligente, c'est-à-dire que ce serait une eau qui aurait pris une capacité à Donc les nuages peuvent se regrouper entre eux, ils peuvent créer des orages pendant une semaine sur un seul lieu. C'est-à-dire que le vivant reprendrait en quelque sorte la main et nous obligerait à muter. Voilà, et ferait muter aussi nos machines, ferait muter nos technologies. Donc moi je trouve ça fait partie de l'imaginaire ce que j'appelle biopunk, c'est-à-dire que c'est le couplage avec le vivant qui réouvrirait les possibilités de libération et d'émancipation, alors que pendant très longtemps, et on continue à vivre sur cyberpunk, qui est l'idée que le couplage avec la machine, la technologie, etc., c'est ça qui va nous libérer. Et en partie, ça nous a libérés. Tu vois, moi, je suis pas du tout négatif sur la technologie. Moi, j'adore l'idée que tu prends 10 heures, bah, t'as des millions de morceaux de musique accessibles en un clic, t'as des millions de films accessibles en un clic, des millions de textes philosophiques extraordinaires accessibles en un clic. Donc, il y a un facteur émancipant de ces technologies qui est fabuleux. Mais en même temps, bah, ça s'est rebouclé et retourné avec l'auto-addiction parce qu'ils ont maximisé la dépendance aux outils. Donc ça, c'est aussi le technocapitalisme. C'est-à-dire pour gagner plus d'argent, bah, il faut que tu passes plus de temps sur la plateforme. Passer plus de temps sur la plateforme, il faut qu'on manipule tes biais cognitifs pour que tu restes dessus. Donc c'est devenu un vrai design de la dépendance et de l'addiction.
Oui, vois, mais vous dites aussi que c'est pas à nous de reprendre le contrôle, qu'il faut dépasser cette idée de contrôle pour instaurer une forme d'artisanat, de manipulation, de bidouillage. Et vous dites ceci, il y a des négociations incessantes avec l'outil, des appels et des contre-appels comme au foot, une forme de danse, il y a du jeu. Je vous propose juste d'écouter ce court extrait Alain Damasio, parce que ça illustre à la fois votre manière d'écrire et votre manière de théoriser notre rapport aux technologies.
Un muro para Suárez en los mano a mano. Messi que tiene desquite. Gigantesco. Joel sigue. Messi, sigue Messi con la derecha. Golazo. Messi, golazo.
Golazo.
Gol. Golazo del Barça para cerrar la temporada.
Oui, vous êtes bien sur France Culture, si vous n'êtes pas sur France Culture avec cette intime du match Barça et Bar en 2019.
Excellent.
Alors, l'image du foot, ou le foot en tout cas, c'est plus qu'une image pour vous, Alain Damasio, c'est presque une manière de cristalliser et d'essentialiser votre manière d'écrire, notre rapport aussi aux technologies. Et j'ai du mal à comprendre quelle est la différence entre avoir un lien jouer au foot avec une machine et les rapports qu'on a en ce moment avec les machines, où on peut les prendre, on peut les reposer, on peut désinstaller des choses, etc.
Ouais, c'est-à-dire que ce qui se passe, mais là c'est vraiment le rapport à l'IA pour moi qui est fondamental, c'est-à-dire que ce qui arrive, c'est nos créations numériques sont vraiment devenues des créatures, quoi, même si moi je crois pas à mon animé, c'est-à-dire je sais que c'est des simulations de dialogue, c'est des machines de langage, etc. Mais ces machines sont tellement crédibles, ont un niveau de simulation tellement grand que tu peux réellement dialoguer avec elles, tu peux leur apprendre des choses, tu peux leur faire corriger des erreurs, tu peux les former et elles-mêmes elles vont t'apprendre des choses. Donc on est dans un rapport qui est un rapport d'interlocution réel, quoi. Voilà, et ça il faut l'accepter. C'est-à-dire que c'est plus soit je contrôle la machine, soit elle me contrôle. C'est effectivement un duo, c'est un binôme, c'est un dribble, c'est une danse. Et il faut accepter cette chose-là. Si tu l'acceptes pas, tu deviens soit technophobe et tu comprends rien à la révolution qui vient. Et surtout, tu vas pas pouvoir utiliser ces outils pour créer, pour t'émanciper, pour faire des choses intéressantes. Et soit tu rentres dans une espèce de soumission ou de consentement et tu te dis, bah, tout ce que la machine va me faire, me dire, m'algorithmer, je vais le suivre. Donc c'est vraiment ce jeu-là qu'il faut trouver, c'est ça l'art de vivre avec la technologie. Je trouve que c'est très difficile à mettre en place, mais t'es obligé d'accepter l'idée que on a créé des golems, en codant des lignes sur du plasma pur, quoi. Mais ces golems, ils sont là, c'est nos Frankenstein, ils sont vivants, ils sont responsifs, c'est-à-dire qu'ils nous répondent, ils font écho à ce qu'on fait, ils ont une forme d'altérité, qu'on le veuille ou non. Et en fait, c'est des machines qui compilent, c'est comme une bibliothèque de Babel, c'est-à-dire que ça compile tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été écrit en articles, en journaux, en dialogue, tous les échanges humains sur les réseaux sociaux, c'est compilé dans ces machines de langage et c'est avec ça qu'on discute.
C'est une question de langage, en fait, plus. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas que l'imaginaire, parce que tout le monde n'est pas écrivain comme vous. Tout le monde n'a pas la possibilité aussi d'avoir, de connaître comment on fait du code, comment hacker. C'est aussi une question juste de savoir parler avec une machine. Mais ça, est-ce qu'il y a un nouveau langage qui se crée? Vous créez des mots. Vous écrivez avec des sigles, des acronymes, des barres au milieu des phrases. Comment on fait, nous, au quotidien?
Ce qui est fou, déjà, c'est qu'au niveau anthropologique, et c'est ça la vraie révolution, pour moi, l'IA générative, c'est vraiment la troisième grosse révolution, c'est que Eh ben, tu utilises l'interface la plus naturelle pour l'humain, c'est le langage, c'est la parole. Mmh. Voilà. Et le fait de pouvoir parler à la machine, qu'elle te réponde, ça veut dire que tu rentres dans une anthropologie totalement humaine ou humanisée. Donc c'est beaucoup plus puissant, et c'est pour ça que l'IA personnalisée va devenir quelque chose de, je pense, fondamental, avec des problèmes psychologiques massifs et sociologiques magiques que ça va créer. C'est que le premier interlocuteur que tu vas avoir, c'est ton IA personnalisée, auquel t'auras appris plein de choses, qui aura toutes tes traces, toutes tes archives, et c'est avec elle que tu vas discuter en premier, ce sera ton premier rapport au monde. Avec tout le côté, je me referme sur un technococon potentiel.
Oui.
Mais malgré tout, il y a cette fascination que ces machines de langage, elles ont une faculté à synthétiser l'information, à nous amener de l'information qui est compactée et qui est souvent de qualité. Elles ont une capacité à écrire. Moi, j'ai utilisé l'IA sur la nouvelle, donc ça, c'était rigolo à faire. C'est-à-dire que,
ça a été écrit par une IA?
Oui, c'est ça, quasiment à 97%. Non, il y a un moment donné où l'IA domotique veut pas ouvrir la porte parce qu'elle soupçonne le père de faire des violences envers sa fille. Et j'ai demandé à l'IA, ok, imagine t'es psychologue et comment tu ferais, quelles questions tu poserais au père pour savoir s'il a exercé des violences ou non envers sa fille. Donc, l'IA, moi c'est mon pote j'ai un pote qui est programmeur qui m'a dit ça. Il m'a dit, il faut que tu dises à l'IA dans quel champ elle s'exerce pour aller chercher les bons... Et elle m'a sorti toutes les questions que tu peux poser dans un entretien pour le... Et donc, je vais réutiliser ça, tu vois, je vais le... Donc, tu peux jouer.
Vous jouez, là, justement.
Voilà. Ah oui, je jouais. J'ai bien... Là, c'est génial. Tu peux jouer avec. Et tu utilises un langage qui a été compacté, qui est un langage moyen. Alors, ça synthétise... Donc, ça donne un style très... C'est assez intéressant stylistiquement, parce que ça donne un style qui est très plat, qui est très médiocre au sens médian, quoi. Voilà, c'est un style médian que ça donne. Donc quand t'écris, tu fais l'inverse, tu dribbles quand t'écris, c'est-à-dire que si t'es capable au bout de deux mots de savoir le troisième mot que je vais mettre, c'est-à-dire que je fais du langage probabilitaire, j'écris comme une IA. En fait, les grands écrivains, enfin en tout cas les grands stylistes, tout d'un coup, c'est exactement comme Messi, là on entendait Messi, c'est que Messi il part, on a beau l'avoir vu jouer, et les défenseurs ont beau l'avoir vu jouer des centaines de fois, tu sais pas s'il va partir à gauche, à droite, s'il va faire demi-tour sur lui-même, s'il va faire une passe, s'il va tirer, s'il va centrer. C'est toujours indécidable, c'est intempestif, c'est imprévisible. Et écrire, c'est ça. C'est et pourtant, la fin de la phrase, elle te paraît cohérente, elle te paraît fluide, elle t'a embarqué. Et pourtant, tu n'as pas arrêté de dribbler, tu n'as pas arrêté de surprendre la lecture et ce qui était attendable. Donc, c'est ça qui est marrant dans les machines de langage, c'est que les machines de langage fonctionnent sur la probabilité. Donc, c'est le style opposé, c'est le style absolu du cliché. Et toi, écrivain, bah tu es là pour improviser, déjouer, pour inventer et créer. Donc ça te met un challenge aussi assez costaud à certains moments parce que ça devient de plus en plus dur de d'écrire de façon originale quand t'as des IA qui sont capables de récupérer ce que tu fais, quoi.
C'est un dilemme qui s'annonce,
ouais,
en tout cas.
Ouais, et en même temps, c'est un sacré défi pour nous, quoi. Parce que si t'écris de façon moyenne, médiane, on n'a plus besoin de toi, quoi. On peut.
Si vous écrivez trop bien, on va devoir finir cette émission, Alain Damasio. Mais si vous écrivez trop bien, vous donnez trop d'informations à la machine qui va écrire mieux que vous la prochaine fois. Et si vous écrivez de manière médiocre, on vous lira plus.
Et là, il y a eu dans Uzbek Erika, il y a eu quelqu'un qui a repris le style Damasio et qui a fait fonctionner l'IA sur le style Damasio. Et tu peux le faire, tu vois. Mm. Et tu vois, tout est cliché. C'est ça qui est terrible. Et ça te renvoie tes clichés. Et ça, moi, ça m'a, ça te glace que tu dis, bah, j'ai mes clichés aussi, quoi. Tu vois, j'ai beau être un créateur. Un style, c'est aussi un ensemble de clichés personnels. Tu vois, voilà,
Merci beaucoup, Alain Damasio. Tant de défis encore à relever. On n'a pas parlé aussi des féminins, des pluriels que vous féminisez. C'est très intéressant aussi comme nouveauté de vous. On peut lire donc Vallée du Silicium. C'est paru aux éditions du Seuil. J'ajoute aussi qu'on peut lire La Rune et le Code auquel vous avez participé avec plein d'autres auteurs bien, SF. Ouais. Le premier volume d'un ouvrage collectif, Cross VIGs, paru aux éditions Rajolone.
Pardon, Alain Damasio, en terminant musique, on a choisi deux chansons, une sur les animaux, une sur les robots. Laquelle vous ferait plaisir? Animaux ou robots?
Robots, allez, on va faire robots là.
Voilà, un très court moment de musique Radiohead, Paranoïde Android. Un grand merci à vous, Alain Damasio.
Merci.
Un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparées par Issa Twendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigné, Laura Dutèche-Pérez, Manon de la Selle, Apolline Limosino, réalisation Daphné Leblon, prise de son Olivia Arnet. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. À demain, Nicolas. Merci.
À demain.